Le journal avec Xavier Demany.
Bonjour. Les Antilles toujours en état d'alerte sur le front du coronavirus. Le CHU de Guadeloupe rappelle son personnel sans délai pour faire face à cette vague inédite de l'épidémie. Face au Covid, le pass sanitaire ne convainc toujours pas l'ensemble des Français. Sixième samedi de mobilisation d'affilée, 200 manifestations prévues dans le pays. Nous serons à Paris. Dans ce journal encore, les évacuations qui se poursuivent en Afghanistan. Témoignage de notre correspondante Sonia Ghezali de retour en France. Angela Merkel en Allemagne au secours de son successeur. 5 nuances de vert, fin des journées d'été des écologistes à quelques semaines de la primaire. À suivre aussi le journal de bord de Thomas Pesquet et la météo des orages dans un large quart nord-ouest.
France Inter.
Branle-bas de combat donc en Guadeloupe face à la situation sanitaire et les hôpitaux submergés. Le CHU a décidé de rappeler tous les personnels et sans délai pour faire face, Claudia Ledésert, à cette vague inédite de l'épidémie de Covid.
Un rappel inédit du personnel administratif, technique ou soignant en congé, indispensable pour faire face à l'afflux de malades. Gérard Cotelon, directeur général du CHU de Guadeloupe.
Le personnel est fatigué, la crise dure. On essaie de faire ça intelligemment, de permettre aux personnes de prendre une semaine, 15 jours de vacances. Et là, la situation est vraiment trop grave et j'ai absolument besoin que tout le monde regagne son poste.
Un rappel qui concerne près d'un tiers des personnels du CHU. Certains n'étaient en congé que depuis lundi. Un retour difficile pour beaucoup. Certains n'ont quasiment pas eu de congé en un an. Des retours que la direction entend encadrer du mieux possible. Cédric Zoledzi, directeur général adjoint du CHU.
Bien sûr, ça demande un peu d'explication, un peu d'échange, parce que ça se fait dans un contexte de fatigue, parfois d'épuisement professionnel, un sentiment aussi d'injustice, mais en fait tout le monde est concerné, donc la mesure elle est équitable pour tout un chacun.
D'après la direction, l'ensemble du personnel du CHU sera en poste d'ici lundi.
Claudia Ledésert de Guadeloupe, la première sur France Inter. La Martinique aura aussi encore besoin de renforts, estime le directeur de l'Agence régionale de santé. Situation encore extrêmement tendue, dit-il, malgré une relative stabilisation. Enfin, la Polynésie, elle aussi frappée de plein fouet par le Covid, annonce la fermeture de ses écoles et renforce le confinement pour 2 semaines supplémentaires. Dans l'Hexagone, 6e samedi de mobilisation des anti-passes sanitaires. Encore beaucoup de monde attendu. Ils étaient 215 000 la semaine dernière selon le ministère de l'Intérieur. 200 manifestations prévues en France, dont celle de Toulon qui sera sans doute encore une fois la plus importante. Bonjour Faustine Calmel.
Bonjour.
Vous avez rejoint l'un des 4 cortèges parisiens emmenés par les Gilets jaunes. Mobilisation morcelée encore ce samedi.
Oui, ce rassemblement, il agrège effectivement des gilets jaunes, mais aussi bon nombre de syndicats, CGT, solidaires. C'est le premier à partir et on y trouve des messages très divers depuis Didier Raoult, président, avec la défense du droit de prescrire des médicaments comme l'hydroxychloroquine, à la défense des libertés individuelles contre le pass sanitaire. Dans la foule aussi, ces militants de gauche, ces syndicalistes qui prônent l'investissement dans les services publics hospitaliers, une union contre le gouvernement d'Emmanuel Macron et qui promettent une mobilisation sociale massive à la rentrée. Actuellement, les quelques centaines de manifestants sont en train de se rassembler et prennent la route. Ils vont rejoindre Bercy et 3 autres cortèges qui doivent sillonner la capitale. Mais ça, ce sera cet après-midi.
Faustine Calmel avec Fabien Gosset pour la liaison technique. Merci à vous deux. France Inter, 13h04 bientôt. Le numéro 2 des talibans à Kaboul, Abdul Ghani Baradar, a rejoint la capitale afghane pour des discussions en vue d'établir un nouveau gouvernement. Pendant ce temps, situation toujours chaotique autour de l'aéroport. Évacuation parmi les plus difficiles de l'histoire, concède le président américain. Beaucoup d'Afghanes et d'Afghans menacés par la prise de pouvoir des islamistes veulent quitter le pays. De retour à Paris, la correspondante de RFI et France Inter, Sonia Ghezali, était l'invitée du 6-9 ce matin. Elle s'inquiète pour ceux avec qui elle a travaillé et sont encore sur place.
Je suis très, très, très inquiète. Oui. J'ai encore hier un de mes anciens fixeurs de Jalalabad, donc de l'Est de l'Afghanistan, qui est aujourd'hui en France, pourtant depuis 3 ans, et qui m'a envoyé un message terrorisé en me suppliant de l'aider à faire sortir sa famille parce que les talibans sont allés leur rendre visite 2 fois déjà, en leur posant des questions très précises sur ses activités et en disant « vous avez travaillé, il était enseignant de français, vous avez travaillé avec les Français, vous étiez avec l'ambassadeur à telle date, etc. Vous êtes avec des journalistes, où est-ce qu'il est aujourd'hui ?» Donc il y a une chasse à l'homme, clairement, qui est en train de se mettre en place. Les talibans font du porte-à-porte pour récolter des informations sur les personnes, sur les journalistes, sur les personnes qui ont travaillé dans les services de sécurité ou qui ont travaillé dans le gouvernement. Et c'est extrêmement inquiétant parce qu'on ne sait pas en fait ce qui va se passer pour toutes ces personnes-là, alors que l'aéroport militaire est complètement engorgé, que c'est dangereux d'essayer d'y accéder. Et il faudrait peut-être envisager, et ça ce sont les autorités françaises qui doivent peut-être envisager de songer à les évacuer par les pays voisins et notamment le Pakistan.
Sonia Ghezali de retour d'Afghanistan avec Laetitia Gaillet à réécouter dans son intégralité sur franceinter.fr. Un quatrième avion d'exfiltrés s'est posé hier soir à Paris avec à son bord une centaine d'Afghans. Les États-Unis disent avoir évacué plus de 13 000 personnes pour l'instant. En Allemagne, Angela Merkel profondément convaincue par la candidature de son successeur. Élection fédérale prévue fin septembre, mais le candidat des chrétiens démocrates armés Laschet aligne des gaffes et dévisse dans les sondages, à tel point que la chancelière, qui quittera le pouvoir cet automne et jusqu'ici très discrète, participe à un meeting aujourd'hui pour relancer la campagne. France Inter en Allemagne, David Philippot.
Si on en croit les sondages, la CDU possède encore une longueur d'avance sur les sociaux-démocrates. Mais pour combien de temps ? La courbe suit une tendance à la baisse depuis la mi-juillet. Le dauphin de Merkel, qui pensait arriver dans un fauteuil à la chancellerie, a vu ses plans contrariés par un été agité. D'abord par les inondations, son éclat de rire en arrière-plan d'une cérémonie officielle sur les lieux de la catastrophe a fait plus que désordre. Et puis sur le dossier afghan, le gouvernement dirigé par son propre parti ne fait pas bonne figure. L'image de gestionnaire de crise d'Armin Laschet avait déjà été égratignée par l'épidémie. La Rhénanie du Nord-Westphalie, région qu'il dirige, est d'ailleurs celle dans laquelle le variant Delta prolifère le plus. Des crises à répétition qui ont mis à jour la faiblesse structurelle de sa candidature et notamment le manque de soutien au sein de son propre parti. Le voilà maintenant, à un mois et une semaine du scrutin, sommé d'envisager de jeter l'éponge. Deux députés de son camp l'exigent. Si les sondages ne remontent pas d'ici deux semaines, son visage, quasi absent des affiches électorales, a déjà disparu du paysage. Berlin, David Philippot pour France Inter.
La tempête Grace s'est transformée en ouragan cette nuit, catégorie 3 sur 5. Des rafales jusqu'à 200 km/h attendues sur la côte est du Mexique avec de forts risques d'inondations et de glissements de terrain.
France Inter, le journal de 13h, Xavier Demagny.
Dans le Var, les flammes n'avancent plus depuis hier, mais le vent va souffler fort dans le sud cet après-midi. Les pompiers travaillent encore pour stabiliser l'incendie et éviter les éventuelles reprises. Tous les massifs forestiers du département sont interdits d'accès ce week-end. Ils sont 5 à vouloir porter les couleurs des Verts à la prochaine présidentielle. Les journées d'été d'Europe Écologie s'achèvent à Poitiers. C'est une primaire qui choisira fin septembre le nom du candidat ou de la candidate écolo. Premier bilan avec Laurence Perron.
Le plus président, incontestablement, social-démocrate compatible, Yannick Jadot, qui a bien gauchi son discours afin que ça ne le plombe pas auprès des siens.
Face aux agitateurs de peur, face aux manipulateurs de haine qui braillent les paniques identitaires, nous serons des semeurs d'espoir.
Deux candidats ex aequo dans la famille verte proche insoumis, Éric Piolle et Sandrine Rousseau, le maire de Grenoble a tenu à rassurer sur son ambition.
Je suis convaincu que l'écologie politique va gagner cette présidentielle en avril 2022.
L'écoféministe, portée par des fans autant que par des militants, a électrisé son auditoire.
Je sais que vous êtes comme moi, résistants et résistantes, alors je vous propose qu'on se lève, qu'on ose et qu'on y aille.
De ratage, Delphine Bateau, qui a laissé son directeur de campagne, Cédric Villani, lui vampiriser son temps de parole et a dû terminer en catimini sous les marronniers sa défense de la décroissance.
Vous croyez gagner les élections en proposant la décroissance aux gens ?
S'ils ne sont pas capables de l'entendre, ça veut dire qu'ils ne sont pas capables d'entendre les conclusions qu'il faut tirer du rapport du GIEC.
Celui-ci était plus prévisible. Le centriste Jean-Marc Governatori a obtenu sa place dans cette primaire grâce à la justice. Il a beau en faire un slogan.
Je voudrais que nous 5 candidats construisions l'énergie de l'amour.
Ces mots se sont perdus dans une indifférence générale limite inélégante.
Laurence Perron, syndicats et patronats seront reçus à Matignon les 1er et 2 septembre pour un tour complet des sujets sociaux. La crise sanitaire, les aides pour y faire face, mais aussi les réformes de l'assurance chômage et des retraites. Près de 800 km de bouchons à la mi-journée. Bon courage si vous êtes sur la route aujourd'hui. Circulation très difficile, particulièrement en Auvergne-Rhône-Alpes et sur l'arc méditerranéen. Enfin, voilà un spectacle original qui mêle danse et basket. Création de la chorégraphe Christina Toll. En tournée cet été en Ile-de-France, Bounceback, c'est son nom, ode à l'esprit d'équipe, Alexis Demeyer.
Des ballons dégonflés et des basketteurs affalés sur le béton d'un terrain de streetball. Ainsi débute Bounceback. Mais en apprenant à se connaître, les corps vont ensuite s'animer pour former un collectif bondissant. Le public assis en cercle sur des tapis se laisse bercer par ce basket-ballet.
La danse, ça va très bien avec le basket au niveau du rythme, on a adoré. On est venu en famille, on savait pas trop à quoi s'attendre. Je pense que ma fille de 7 ans, elle a aimé également.
On aime bien le basket, du coup c'est très original et c'est super.
Bah, je fais pas du tout de basket, je suis ici par hasard, mais c'est cool. J'ai pas tout compris, hein, faut être honnête.
La danse contemporaine qui s'invite sur les terrains franciliens, une idée que l'on doit à la franco-américaine Christina Toll, fondatrice de la compagnie Kivuko.
En regardant le basket, pas surtout des basketteurs comme Allen Iverson ou Scottie Pippen, je me disais qu'il y avait quand même des personnes qui arrivaient à transcender le code du sport pour devenir artistes. Je trouvais qu'il y avait vraiment un pont entre la virtuosité qu'on puisse avoir dans la danse et puis la virtuosité qu'on peut se trouver dans le basket.
Trois danseurs, une femme et deux hommes forment cette dream team en short et maillot fluo. Parmi eux, Joël Beauvois.
De base, je suis pas basketteur, je suis danseur. Ça n'avait pas été si difficile que ça de rattraper mon niveau en basket, parce que j'en avais fait quand j'étais collégien. Mais je pense que c'est plus dur de danser quand on fait du basket et de faire du basket quand on danse.
Bounceback, spectacle à voir par exemple dans le 10e arrondissement de Paris cet après-midi, c'est gratuit. L'heure de retrouver Thomas Pesquet. 4, 3, 2, 1. Mission Alpha, le journal de bord de l'astronaute français. 6 mois dans la station spatiale internationale avec son lot d'expériences scientifiques, mais aussi de moments un peu plus contemplatifs, comme ces soirées passées à observer les aurores australes. Sophie Bécherel.
Phénomène lumineux provoqué par l'interaction entre les particules chargées du vent solaire et la haute atmosphère, les aurores polaires se produisent à proximité des pôles magnétiques. Elles sont soit boréales au pôle nord, soit australes au pôle sud. Si le soleil est particulièrement actif, on voit ces aurores à des latitudes assez basses, parfois même au nord de la France. En ce moment, parce qu'il n'y a pas de nuit au pôle nord, les aurores boréales ne sont pas visibles. Mais dans l'hémisphère sud, en revanche, le spectacle semble de toute beauté, si l'on en juge par les photos postées par Thomas Pesquet. Je lui ai demandé s'il en voyait beaucoup.
Oui, elles sont beaucoup plus nombreuses que pendant ma mission précédente, ou alors peut-être qu'on n'avait pas fait attention, peut-être qu'on... C'est aussi une question de chance, hein. Il faut passer dans les bonnes zones au bon moment. Donc là, on en a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça fait peut-être 2 semaines qu'on en voit quasiment tous les jours. C'est complètement magique. Quand on les voit en temps réel, c'est vraiment assez serein. Ça donne cette expression de flottaison un peu éthérée, un peu fantôme qui vole. C'est tout un dispositif pour les prendre en photo parce qu'il y a plein de réflexions à bord de l'ISS. Il y a plein de voyants verts, rouges, bleus qui clignotent. On n'a pas l'impression, mais tout ça, ça crée des reflets dans les vitres. Et on les voit toujours au même endroit, oui. C'est au sud-ouest de l'Australie. C'est à peu près à mi-distance entre Kerguelen et l'Australie, on va dire. Mais voilà, c'est une des choses, enfin des spectacles naturels, je pense, les plus beaux qu'on puisse voir sur Terre ou autour de la Terre.
Question pratique, quand vous faites vos 2h30 de sport par jour, est-ce que vous transpirez ?
Oui, c'est un peu comme sur Terre, en fait. Ça dépend si on s'entraîne fort ou pas. Moi, j'aime bien quand même, j'allais dire me faire mal, je devrais peut-être pas dire ça, mais il y a peut-être des psychologues qui nous écoutent. Mais non, je cours pas des marathons, mais quand même, je fais beaucoup de sport et j'aime ça. J'aime bien me pousser un petit peu. Donc oui, moi j'en sors assez transpirant. Mais en plus, la sueur en apesanteur, ça goûte pas, ça reste sur le corps et ça a tendance à créer une couche qui devient isolante en fait. Donc une fois qu'on a cette couche isolante, cette couche de sueur, du coup on est encore plus chaud. Donc au final, la sueur qui est censée nous rafraîchir, elle fait le contraire de son boulot. Donc on a toujours une petite serviette et on essaie de s'essuyer le visage, les bras pour éviter cet effet-là. Ouais, c'est assez marrant. Mais à part ça, donc, les sensations sont les mêmes. Courir avec un tapis roulant accroché à des bretelles, c'est pas exactement la même chose. Il faut retrouver un peu son équilibre, il faut s'habituer, mais ça prend 4-5 séances et puis après ça devient une seconde nature. Et vice-versa, ensuite, une fois qu'on revient sur Terre, il faut réapprendre à courir un peu différemment. Et on a l'impression d'être un éléphant, par contre. Hein. Voilà, ça, c'est pas une sensation que je vais être content de retrouver, mais bon, Ça passe par là, il faut se réadapter à la vie sur Terre.
La grosse expérience de la semaine était américaine, Cardinal Muscles. Pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit ?
En gros, c'est des tissus artificiels. Alors, les Américains appellent ça engineered tissues. Donc, c'est du muscle recréé, en fait, en laboratoire, ce qui est assez dingue parce qu'ils arrivent à faire des cellules musculaires qui peuvent se contracter. Et en fait, ce qu'on va étudier, c'est bien parce que comme ça on le fait pas sur nous-mêmes, on va étudier le vieillissement musculaire. On sait que dans la station, évidemment, on a une perte de masse musculaire très rapide en fait pendant une mission de 6 mois, qui est comparable à ce qui se passe sur Terre. Mais sur Terre, ça se fait avec l'âge, en fait. Entre 20 ans et 80 ans, on perd, je sais pas, un énorme pourcentage de sa masse musculaire. Mais évidemment, c'est très graduel. Ça se fait pas du jour au lendemain. Donc, on a du mal à étudier ce phénomène sur Terre, parce qu'il faudra faire une étude de recherche qui dure 50 ans. Alors que nous, on peut le faire sur des prélèvements qui vont être étudiés pendant 6 mois. C'est beaucoup plus rapide pour accéder aux résultats. Voilà. On passe des heures et des heures à cultiver, quelque part, ces tissus recréés. Et puis, on va vraiment les étudier au microscope. On va en prendre des prélèvements qu'on fait redescendre sur Terre pour que les scientifiques essaient de faire avancer les traitements pour cette perte musculaire sur Terre, qu'elle soit pathologique ou qu'elle soit juste provoquée par l'âge. Évidemment, nous, ça nous intéresse aussi parce que si on va aller sur Mars, on n'a pas envie d'arriver en ayant perdu tous nos muscles.
Thomas Pesquet et son journal de bord à retrouver sur franceinter.fr.
La météo avec Hello Business, la nouvelle offre bancaire dédiée aux indépendants par Hello Bank. Plus d'infos sur hellobankpro.fr. Hello Bank est l'offre 100% digitale de BNP Paribas.
Jean-Michel Golinski.
Des températures de 20 à 22 degrés cet après-midi des Pays de la Loire à la Bretagne, contre 30 à 32 des régions de l'Est à la Méditerranée et 27 à 30 du nord de la Seine au sud-ouest, avec du soleil au sud d'un axe Bordeaux-Lyon, excepté les grisailles un peu plus tenaces près des Pyrénées et sur les plages du Languedoc-Roussillon. Plus haut, la perturbation qui a abordé la Bretagne ce matin progresse vers l'est, arrosant cet après-midi les régions du centre et du nord de la Seine en se mêlant par fois d'orage. Ce soir, en arrivant sur l'est, où les températures auront bien monté, des orages plus forts et parfois de grêle vont se déclencher, notamment du Grand Est à la Bourgogne-Franche-Comté.
Et les 24 heures du Mans vont même partir sous la pluie. Jean-Michel Golinski de Météo France, merci.